Chapitre 3. Lorsque le fiacre qui contenait l'accusé et les deux policiers s'arrêta devant le numéro 3 du square La Bruyère, il était 10 heures du matin. Comme on ne s'attendait pas à cette opération judiciaire, il n'y avait pour ainsi dire personne sur les trottoirs, et elle put pénétrer dans l'immeuble sans attirer sur elle la curiosité du public. Hautaine, distante, très à son aise, elle entrait dans la loge de la concierge en attendant qu'arrivât l'inspecteur qu'on avait envoyé chercher les clés de l'appartement qui se trouvait au commissariat du quartier Saint-Georges. Comme les gens du voisinage, qui venaient d'apprendre l'arrivée de Madame Bessarabeau, commençaient à se rassembler devant la maison, la meurtrière, désireuse de se soustraire à leur regard hostile et à leurs réflexions désobligeantes, demandait qu'on la fît passer dans une pièce qui se trouvait à l'arrière de la loge et d'où on ne pouvait l'apercevoir du dehors. Il allait être accédé à sa requête lorsque l'inspecteur arriva avec les clés. Précédé de M. Faralic et des représentants de l'identité judiciaire, toujours flanqué de ses deux gardiens, Madame Bessarabeau gravit l'escalier qui conduisait à son appartement où elle pénétra sans la moindre émotion apparente. Aussitôt, les opérations judiciaires commençaient. Sur la demande de M. Faralic, la femme de lettres expliqua, d'un air naturel et d'une voix très calme, comment elle avait tué son mari. Elle refit au commissaire le même récit dont elle m'avait déjà gratifié la veille d'un juge d'instruction, affirmant avec énergie qu'elle n'avait nullement tué M. Bessarabeau pendant qu'il dormait, mais que c'était au cours d'une dispute qu'elle avait tirée. Ensuite, sous la surveillance de M. Faralic, deux inspecteurs parcoururent une à une toutes les pièces, fouillant minutieusement tous les meubles et satisfaisant, entassant, saisissant quantité d'objets qu'au fur et à mesure on plaçait sous scellé. Ce fut ainsi qu'on découvrit un élégant peignoir, bleu, qui appartenait à la meurtrière, dont l'une des manches paraissait tachée de sang. On saisit également un matelas qui, certainement, avait été ensanglanté, mais dont on avait lavé et repassé la toile avec tant de précipitation que le fer trop chaud l'avait roussi. Une correspondance très volumineuse allait rejoindre les autres objets saisis, ainsi que des manuscrits et de nombreux livres. Parmi ceux-ci, un livre de poésie avec cette dédicace, « Complainte de guerre » dédié à mon cher Maury Georges Bessarabeau. Pendant ce temps, Madame Bessarabeau, conservant un calme dont rien ne semblait devoir la faire départir, s'était assise dans un coin de son salon et s'était mise à faire du crochet. Les opérateurs du service anthropométrique prenaient dans l'appartement de très nombreuses photographies, relevant des plans et s'attachaient surtout à prendre des vues d'un coin de la chambre à coucher, à l'endroit où celle-ci s'ouvrait sur un petit cabinet de toilette, salle de bain. M. Faralic, au cours de sa perquisition, parvenait à fixer définitivement l'instant où la malle qui devait sortir servir de cercueil au cadavre de M. Bessarabeau avait été descendue du grenier. C'était bien le samedi matin après le crime. Quant à la part de complicité de Mademoiselle Paul Jacques, on se rappelle qu'elle avait déclaré que, réveillée par le bruit de la détonation, elle avait couru vers la chambre de sa mère, que celle-ci l'avait empêchée de rentrer dans la pièce et que par un jeu de glace, elle avait pu se rendre compte de ce qui s'était passé. Une minutieuse perquisition permit d'établir que les dires de Mademoiselle Jacques, à ce point de vue, tout au moins, étaient exacts. M. Faralic, ayant vers midi terminé ses perquisitions, faisait remonter l'inculpé dans un taxi. Ce fut à grand-peine que les agents réussirent à faire circuler la foule qui s'était accumulée devant la maison, et comme des murmures et même des cris menaçants s'élevaient à bonne adresse, la femme de lettres, baissant cette fois la tête, ne put s'empêcher de tressaillir. Pour la première fois, elle venait de sonder l'abîme. Le lendemain, M. Faralic, cette fois en dehors de la présence de Mme Bessarago, se transportait dans la villa de Montmorency afin de s'y livrer à des constatations fort importantes. Accompagné de M. Bonnefou, commissaire de la localité, et de plusieurs de ses collaborateurs immédiats, il ne tardait pas à tomber sur des pièces à conviction qui présentaient, pour la marche de l'instruction, un intérêt que l'on pouvait qualifier de capital. Tout d'abord, il découvrait des lambeaux de deux draps de lit présentant des taches de sang. Une couverture également ensanglantée, la valise en carton clair jaune dans laquelle les inculpés avaient entassé tous ses linges, puis une autre valise, plus petite, bourrée de lettres et de documents. Dans la cuisinière, le magistrat recueillit des débris calcinés, notamment quelques fragments de cuir qui semblaient provenir d'un porte-monnaie. Dans le jardin, on découvrit un amas de cendres, à l'endroit où, certainement, Mme Bessarabo et sa fille avaient brûlé l'oreiller, les draps et linges compromettants. Puis on trouva une chemise de femme, celle que portait Mme Bessarabo et qui, malgré les lavages évidents, présentait encore des traces de sang. Cette découverte était de nature à renforcer la conviction qu'avaient déjà les enquêteurs que M. Bessarabo avait été tué pendant son sommeil et non à la suite d'une violente discussion. M. Faralic saisit encore une malle, toute neuve celle-ci, contenant des robes encore munies de leurs étiquettes, des coupons de soie, du linge, tous objets indiquant les préparatifs de départ faits par les inculpés. Ainsi qu'on le voit, la visite avait été fructueuse. En outre, M. Faralic, à la suite d'entretiens qu'il avait eus avec différentes personnes du pays, rapportait la certitude que c'était sur l'insistance extraordinaire de sa femme que M. Bessarabo avait consenti à acheter la villa de Montmorency, mais que, saisi d'un sinistre pressentiment, il s'était toujours refusé à s'y rendre. « Jamais je ne mettrai les pieds là-bas, » avait-il déclaré à ses intimes, « car j'en reviendrai pas. » En possession de ces résultats, le juge d'instruction M. Bonin chargeait M. Bell, directeur du service de l'identité judiciaire, d'examiner toutes les pièces à conviction retenues par lui, ainsi que les objets qui avaient servi au crime et ceux qui avaient été saisis au domicile de Bessarabo, tant à Paris qu'à Montmorency. Il lui donnait mandat de porter tout particulièrement ses recherches et ses observations sur la balle que le docteur Paul avait extraite du crâne de la victime et de s'efforcer de déterminer la marque et le calibre du revolver que Mme Bessarabo avait fait disparaître après s'en être servie. Les investigations de M. Bell devaient également porter sur les vêtements, les linges, le drap où l'on avait cru remarquer des traces de sang, ainsi que sur les morceaux d'étoffe et les débris de cuir trouvés à Montmorency dans le jardin de la villa. Poursuivant son délicat travail de recoupement, M. Bonin se mettait en devoir de recueillir sur le compte de Mme Bessarabo de nouveaux renseignements. Ayant entendu dire que Mme Bessarabo jouait à la bourse et possédait même un bureau aux environs de cet établissement, il envoyait également M. Faralic s'en assurer. Le commissaire de la police judiciaire découvrait en effet que Mme Bessarabo était en rapport avec un coulissier, M. Colomines, établi 10 places de la Bourse. Celui-ci, avec la meilleure grâce du monde, déclarait « J'ai fait la connaissance de Mme Weissmann Bessarabo il y a environ 4 ans et je n'ai jamais eu avec elle que des relations d'affaires. Elle m'avait confié une somme de 40 000 francs. À cette époque, je ne pus la faire fructifier. Le continua néanmoins mes relations avec Mme Bessarabo. Comme elle m'envoyait des clients, je lui assurais une remise mensuelle de 1 200 francs. Cette prime constituait en somme des appointements, tout comme j'aurais pu le faire pour un courtier. Elle a ainsi récupéré sa perte initiale. « Et quand vîtes-vous cette personne pour la dernière fois ?» demandait M. Faralic. « Quelques jours avant le crime, » répondit le coulissier. « Je lui fis même à sa dernière visite une avance de 3 mois, c'est-à-dire 3 600 francs, pour lui permettre de partir au Mexique, puisqu'elle devait s'embarquer le 31 juillet. J'ai été tout surpris d'apprendre ensuite qu'elle était à Paris, accusée d'avoir tué son mari. » M. Faralic procédait aussitôt à la saisie du dossier concernant Mme Bessarabeau, qui était en possession de M. Colmine. Il n'y trouva aucune trace d'opération récente. Il devenait donc important de savoir à quoi Mme Bessarabeau employait l'argent que lui donnait son mari, et d'établir la somme exacte que la victime avait dans son portefeuille le soir où il était rentré chez lui pour la dernière fois. Sa femme prétendait qu'il n'y avait trouvé que 150 francs. Or, tous les témoins entendus affirmaient que M. Bessarabeau n'avait jamais sur lui moins de 4 à 5 000 francs. Or, Mme Bessarabeau s'était emparée d'une somme de cette importance. Qu'en avait-elle fait? Il y avait donc un mystère dans la vie de Ramirtel. Découvrir ce mystère n'était-ce point connaître le mobile du crime? Ce mobile n'était-ce pas un amant? M. Bonin, avant d'interroger la mère et la fille, allait s'efforcer de tirer tout cela au clair. Parmi les nombreux témoignages qu'il avait déjà entendus, il en était un qui avait singulièrement frappé l'esprit du magistrat. C'était celui de Madame Coutan qui, après avoir été pendant quelque temps au service de Madame Jacques, s'était retirée à Arcachon. Ayant appris qu'elle était venue passer quelques jours à Paris chez une de ses parentes, M. Bonin l'avait immédiatement convoquée à son cabinet de travail et voici le récit qu'elle lui fit. Quand Madame Jacques et ses filles vinrent se fixer 107 rue de Sèvres, j'étais employé comme femme de ménage chez une locataire de l'immeuble. Madame Jacques, voulant se faire servir et n'ayant pas de domestique, demanda à la concierge si elle ne connaissait personne. Je fus proposé et accepté. Je travaillais chez elle de 7 à 11 heures du matin. Mais ma patronne était d'un caractère irascible, violent, autoritaire, très difficile en un mot. Elle indisposait ses domestiques qui, je la pris bien vite, restaient peu de temps chez elle, ce qui fut mon cas. Un peu plus de 2 mois, je crois. Mais pendant ce court laps de temps, je fus à même de voir bien des choses qui me choquèrent. Ces allures excentriques de Madame Jacques et de sa fille, Paul, par exemple, ainsi que l'existence mouvementée, dispendieuse, que me laisse ma maîtresse, c'était, vous vous en doutez, pendant l'absence de son mari, encore au Mexique. On recevait peu de monde à la maison, mais si ses fréquentations étaient rares, j'ai remarqué toutefois un visiteur qui, venant tous les jours, était constamment bien accueilli. Il demeurait fort longtemps. C'était un homme très élégant, d'environ 35 à 38 ans, de taille moyenne et assez fort, qui portait une barbiche blonde taillée en pointe. Son nom, je l'ai oublié, bien que je l'ai entendu plusieurs fois et lu à plusieurs reprises sur les lettres ou sur les pneumatiques qu'on lui adressait et que j'allais porter au bureau de poste. Mais il m'est impossible de le retrouver. Pensez donc, il y a 6 ans de cela. Un jour, madame, plus pressée que de coutume, pensa que le pneumatique n'allait pas assez rapidement et me chargea de porter le mot qu'elle écrivait à ce monsieur. Je m'acquittais de ma mission, mais pour le moment, il m'est tout aussi difficile de retrouver l'adresse que le nom du destinataire. C'est dans le quartier latin, mais où, je ne sais plus. Ce monsieur, je me rappelle, se disait homme de lettres, mais il me semble qu'il s'occupait surtout de questions scientifiques. Il écrivait dans des revues. Durant les quelques semaines que je fus au service de Madame Jacques, il vint à peu près chaque jour. Je me doutais bien que ma patronne nourrissait pour lui les sentiments les plus tendres, et j'en eus la preuve en rentrant un jour dans la salle à manger. Bien qu'ils se fussent brusquement séparés, j'avais eu le temps de les voir s'embrasser. Mais Madame Jacques dut pourtant être persuadée que je n'avais rien vu. Quand le mari revint du Mexique, j'avais déjà, de mon plein gré, quitté le service de sa femme, parce que c'était vraiment trop dur. Mais j'avais toujours un autre ménage dans la maison, et vous pensez bien que je continuais à être au courant des faits et gestes de Madame Jacques et de ce qui se passait chez elle. Comme tout le monde dans la maison, je fus frappé du subit ou rapide changement du négociant. Étonné à ce propos, j'ai souvenance d'une parole que prononça un matin en ma présence Monsieur Jacques dans l'escalier où je me trouvais. « Oh, ça va toujours pas, dit-il. Aujourd'hui, je me sens plus mal que de coutume. Je pense que j'aime, on dirait que je suis empoisonné. » Et lorsque, quelque temps plus tard, j'appris son suicide, cette phrase me revint à la mémoire et sa fin tragique me parut étrange. J'eus un moment l'idée de faire part de mes doutes au commissaire de police. Mais bien que ce suicide eût à ce moment rencontré pas mal de sceptiques, cette version finit par être admise par tout le monde et je crus sage de me taire. De son côté, Madame Chambre, concierge au 107 de la rue de Sèvres, interrogée par M. Bonin au sujet de l'ami de Madame Bessarabeau, confirmait en tout point les témoignages de Madame Constant. « Cet ami, disait-elle, « Oh, tous ici, nous l'avons remarqué. Il cessa ses visites la veille même du retour de M. Jacques. Mais s'il ne montait plus dans l'appartement, il attendait Mme Jacques dans la rue, parfois même devant ma porte. Et ils partaient ensemble, montaient en taxi et s'en allaient déjeuner ou dîner au restaurant. C'était la fable du quartier. « Et que pensez-vous du suicide de M. Jacques ?» interrogeait le juge d'instruction. « Moi, déclarait Madame Chambre, j'ai toujours trouvé la mort de ce pauvre monsieur suspect. Je ne suis pas la seule. Tenez, avant de venir habiter ici, Madame Jacques et ses filles avaient pris à leur service une domestique espagnole dont le nom m'échappe. Bien cette personne, 3 mois après la mort de monsieur Jacques, passa par... ici, demanda de ses nouvelles, et nous lui apprîmes la fin de son vieux ancien patron. « Suicidé, monsieur Jacques !» s'exclama-t-elle. « Non, par exemple !»« Pas celui-là, alors donc !»« Empoisonné, oui, avec de la poudre, la fameuse poudre !»« Mais non, lui fit-il objecter, il s'est tué avec un revolver !»« Un revolver, c'est possible !» Mais il ne s'est pas suicidé. Et Madame Chambre poursuivait. Il n'y a pas eu que l'Espagnol à avoir parlé de cette poudre. Retrouvez une belle heureuse qui, elle disait, fut domestique chez Madame Jacques et qui, je crois, répond au nom d'Armandine. Demandez-lui si elle n'avait jamais vu Madame Jacques en l'absence et ainsi de son mari. Verser une poudre dans le potage qu'il allait absorber. Il est vrai, et paraît-il, ce faisant, Madame Jacques déclarait à la petite maîtresse, aigresse, « C'est pour le guérir, il souffre de l'estomac. Mais il ne veut pas se soigner, alors je verse la poudre en cachette. » Monsieur Bonin entendait un autre témoin, Monsieur Auguste Beau, concierge d'un immeuble situé 8 square de Louis Maubourg, retour Maubourg, où M. et Mme Jacques avaient demeuré pendant quelque temps. M. Beau déclarait Oh, monsieur Jacques, ne me considérez pas comme un concierge, mais comme un ami. Nous allons chaque après-midi faire ensemble d'innombrables parties de piquet dans le petit café que tient encore monsieur Ravier au coin de la rue de la Tour Beaubourg et de l'avenue de Senon. Et là, monsieur Jacques me disait ses peines. Ma femme est une trop grande dame pour moi, pauvre paysan. Je le comprends bien maintenant. C'est mon argent qu'elle voulait. En effet, ce pauvre monsieur Jacques n'était jamais chez lui lorsque sa femme donnait soit une réception, soit un goûter aux amis de ses filles, Lily et Paulette. On aurait dit que toutes trois avaient honte de lui. Et en 1913, au moment où venait d'éclater une nouvelle insurrection au Mexique, monsieur Jacques s'en alla là-bas pour mettre ses capitaux à l'abri. Car je puis vous le dire, à Paris, il vivait de ses rentes, qui étaient appréciables, mais qui pourtant ne devaient pas suffire au train que menait madame Jacques. Aussi le mari avait-il conservé d'importantes affaires à Mexico. Pendant son absence, sa femme négocia toutes les valeurs qu'il possédait. Elle fut aidée en cela par un jeune homme, grand, mince, rasé, portant lorgnon avec lequel elle semblait s'entendre parfaitement, car il n'y avait pas le jour qu'il ne vînt la voir. Elle semblait avoir pour lui des tendresses particulières, bien qu'il fût beaucoup plus jeune qu'elle. Et lorsque monsieur Jacques revint du Mexique, je m'aperçus tout de suite que le ménage allait de mal en pis. Nos parties de piquet reprirent de plus belle chez Gravier. Jamais le négociant n'était pressé de rentrer dîner. Et 15 jours avant son départ pour la rue de Sèvres, monsieur Jacques fut très malade. À peine remis, il voulut faire une dernière partie avec moi, mais l'entrain n'y était plus. Il paraissait triste, et comme j'insistais pour connaître les causes de cet état de dépression, il me dit: Mon pauvre Auguste, je vais déménager. Il faut que je vous confie quelque chose. Je crois que ma femme m'empoisonne lentement. Depuis ce jour, je n'ai plus revu mon locataire. Madame Jacques, devenue Madame Bessarabot, est revenue une fois m'annoncer qu'elle s'était remariée au Mexique et que, désireuse de renouer avec ses anciennes relations, elle me priait de lui adresser les personnes qui s'informeraient d'elle, 3 squares La Bruyère, son nouveau domicile. Enfin, monsieur Bonin, ayant appris que madame Bessarabot, le jour même où elle avait expédié son mari dans une malle, avait invité à déjeuner pour le lendemain à Montmorency un des amis de la victime, monsieur Dauphin, coulissier, convoquait à son cabinet ce dernier, et il ne se faisait nullement prier pour lui dire: Je m'étais rendu avec ma femme à l'invitation de madame Bessarabot, car je comptais bien y rencontrer mon camarade Georges, pour lequel j'avais beaucoup d'amitié. Et quand je suis arrivé à la villa, madame Bessarabot se trouvait dans le jardin. Elle vint au-devant de moi et me dit être très contrariée de l'absence de son mari qui, ajouta-t-elle, pouvait encore arriver. Nous l'attendîmes, en effet, guettant les autos sur la route et tout en parlant de choses variées. J'étais loin de me douter du sort de l'infortuné Weissmann. Le repas fut très animé. Je visitai ensuite, en compagnie de mon hôtesse, toutes les pièces de la villa récemment acquises, tout cela accompagné d'une quantité d'explications données avec le plus grand calme. Maintenant que toute l'affaire est à peu près connue, je m'étonne du sang-froid de cette femme. Pour vous en convaincre, monsieur le juge, écoutez ce détail. Elle me fit voir la fameuse lettre dans laquelle Bessarabot la priait d'aller le samedi matin expédier la malle à Nancy. Je remarquai cette phrase: Je rentrerai ce soir probablement. Et madame Bessarabot me dit: C'est extraordinaire, mon mari, qui ne fait jamais de faute d'orthographe, a mis un S à rentrerait. Peut-être voulait-il ajouter une condition. Voyez, comme tout était réfléchi chez cette femme qui avait songé sur-le-champ à détruire les faits d'un lapsus calami susceptible de donner l'éveil. Je quittais Montmorency à 5 heures du soir, n'ayant absolument rien remarqué d'anormal. Jugeant son dossier suffisamment pourvu, M. Bonin décidait d'interroger Mme Bessarabot. L'enquête passait de la période préparatoire à la période active.